Bonjour à toutes et à tous.
Vous écoutez l'actualité des luttes,
comme tous les jours, du lundi au vendredi,
de 12h30 à 13h30,
sur FPP,
fréquence Paris Pluriel 106.3.
On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. Pas en restant en autarcie là, sur nos petits, avec nos petites idées dans un petit coin, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça ne marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement.
Bonjour, vous êtes bien dans l'actualité des luttes, comme tous les jours de 12h30 à 13h30 sur fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Et aujourd'hui, en cette émission du vendredi 9 février 2024. Une émission consacrée à la Palestine. Tout d'abord, vous entendrez plusieurs interviews des membres de l'association Palmed qui revenaient de Palestine ce mardi 6 février 2024 dernier. Ensuite, vous entendrez l'entretien d'un des membres du collectif Samidoun qui reviendra sur la décision du tribunal de La Haye et sur l'importance de la mobilisation en solidarité à la lutte du peuple palestinien. Ceci pour introduire notre dernière diffusion, où vous entendrez à ce moment deux prises de parole qui ont été réalisées lors de la réunion publique organisée par le collectif Urgence Palestine Paris 20e, mercredi dernier à la CNT. Mais avant de vous diffuser tout cela, nous vous laissons avec Stéphane qui nous fait un petit point sur la démarche de l'Afrique du Sud quant au tribunal de La Haye et sur la décision qui a donc été rendue le 26 janvier dernier.
Le 29 novembre dernier, l'Afrique du Sud avait, je cite, « déposé aux greffes de la Cour internationale de justice une requête introductive d'instance contre Israël concernant des manques allégués dans la bande de Gaza aux obligations découlant de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide ». Précisons d'abord, avant de rentrer dans les détails, ce qu'est la Cour internationale de justice. La Cour internationale de justice est l'organe judiciaire principal des Nations Unies. Elle a été instituée par la Charte des Nations Unies, signée en 1945 à San Francisco, soit au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et a entamé ses activités en 1946 au Palais de la Paix à La Haye, c'est-à-dire aux Pays-Bas. La Cour, qui se compose de 15 juges, a une double mission. Premièrement, elle règle conformément au droit international les différends d'ordre juridique entre les États lorsque ces derniers la sollicitent en la matière. Deuxièmement, elle donne des avis consultatifs sur les questions juridiques que lui posent les organes et les institutions spécialisées de l'Organisation des Nations Unies autorisées à le faire. Ici, la requête a été déposée par l'État d'Afrique du Sud pour un litige qu'il oppose à l'État d'Israël, en l'accusant notamment d'avoir violé l'article 2 de la Convention de 1948 sur le génocide. À cet instant des explications, un point important doit être précisé. La Cour n'est pas compétente pour juger des personnes physiques accusées de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité, car ne constituant en effet pas une juridiction pénale comme peut l'être la Cour pénale internationale ou des tribunaux pénaux créés ad hoc par les Nations Unies, qui eux sont pourvus de procureurs et peuvent lancer par conséquent des poursuites. Il s'agit d'institutions différentes qui ne doivent pas être confondues. Cela dit, les arrêts rendus par la Cour dans les différends entre États ont juridiquement force obligatoire pour les parties en cause, l'article 94 de la Charte des Nations Unies stipulant en effet que « chaque membre des Nations Unies s'engage à se conformer à la décision de la Cour dans tout litige auquel il est parti ». Et Israël est bien un État membre de l'ONU et une partie en présence. Et il est donc bien concerné par l'ordonnance de la Cour, cette dernière, vous l'aurez compris, se caractérisant par sa compétence générale, juridique et faisant, théoriquement, loi au prix de tous les acteurs. En ce sens, l'ordonnance rendue ce 26 janvier 2024 par la Cour de la Haye fait date. Elle ordonne à Israël de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir la commission à l'encontre des Palestiniens de Gaza de tout acte de génocide. Israël, également, doit veiller avec effet immédiat à ce que son armée ne commette aucun des actes de génocide. La Cour considère également qu'Israël doit prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir et punir l'incitation directe et publique à commettre le génocide à l'encontre des membres du groupe des Palestiniens de la bande de Gaza. En outre, est aussi ordonné à Israël de prendre sans délai des mesures effectives pour permettre la fourniture des services de base et de l'aide humanitaire requis de toute urgence afin de remédier aux difficiles conditions d'existence auxquelles sont soumis les Palestiniens de la bande de Gaza. Enfin, Israël doit prendre des mesures effectives pour prévenir la destruction et assurer la conservation des éléments de preuve relatives aux allégations d'actes de génocide. Ici, le CIJ ne conclut pas la commission d'un génocide par Israël. L'instruction prendra plusieurs années, ce qui a été établi dans un temps judiciaire très court et le risque imminent qu'un génocide puisse être commis en se basant sur les faits et circonstances rapportés par les observateurs. Par ailleurs, il est à noter que la Cour n'appelle pas, du moins pas directement, à un cessez-le-feu, ce qui a réjoui les autorités israéliennes qui, tout en étant critiques du rendu, n'ont pas manqué de rappeler leur argument phare qui serait un droit à se défendre. Un argument pourtant que la Cour a superbement ignoré, n'avalisant pas leur rhétorique. La position de la Cour est plus subtile, n'appelant certes pas explicitement à un cessez-le-feu, mais en convoquant les conditions dans la mesure où la nature de l'offensive israélienne ne pourrait être poursuivie en l'état au regard des conditions particulières à Gaza. C'est donc à la fois une décision historique, avec un poids juridique et politique certain sur Israël et ses alliés, à même de servir d'appui, et à la fois un acte avec peu de conséquences directes, puisque la campagne génocidaire continue. Du reste, Israël n'a pas tardé à répliquer en lançant une campagne contre l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens créée en 1949 au motif que des employés sont accusés d'être impliqués dans l'attaque du 7 octobre 2023. L'agence pourtant a pour mandat de fournir une assistance humanitaire et une protection aux réfugiés palestiniens, laquelle s'avère vitale. Cette contradiction avec l'ordonnance du CIJ rendue une semaine plus tôt et comportant un volet sur l'aide humanitaire laisse à voir non seulement le mépris de la vie humaine des autorités israéliennes, mais qui plus est, la façon dont elle s'assoit sur le droit international. On terminera ici en précisant qu'actuellement, 9 autres pays ont suspendu leur financement. Les pays sont les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, le Canada, l'Italie, l'Allemagne, la Finlande, les Pays-Bas et le Japon.
Et on écoute donc tout de suite les interviews réalisées avec différents membres de l'association Palmed le mardi 6 février 2024 à Roissy.
L'hôpital est envahi par les personnes. Et chaque fois qu'il y a une situation d'urgence, bien évidemment, il y a des afflux à l'intérieur même de l'hôpital qui rend impossible toute activité autour des malades les plus graves. Tout se fait par terre. Tellement à ce moment-là, les blessés arrivent en même temps. Mais il n'y a pas que les blessés. Il y a cette demande aussi. Il y a un effondrement du système sanitaire. Il y a 25 000 personnes qui ont des besoins liés aux pathologies saisonnières. Il y a énormément de problèmes respiratoires liés aux conditions de vie. Et vous avez là-dessus des arrivées de blessés qui sont consécutifs aux bombardements, qui sont consécutifs aux snipers et qui sont consécutifs aussi aux drones, puisque les drones tuent en même temps aussi. Et donc, c'est une situation totalement désespérante. Pour ce qui concerne les snipers, ils tirent surtout au niveau de la tête. Et donc, on a énormément de gens qui arrivent, qui ont été tirés par les snipers, et pour lesquels, malheureusement, on se rend bien compte que même s'ils sont vivants, il faut, à un moment donné, considérer qu'il faut les laisser mourir. Voilà, ça fait toute cette situation-là. Mais ça, c'est l'hôpital européen. Je suis allé plusieurs fois à Rafah, la ville de Rafah. C'est 250 000 habitants qui est passé à 1,4 million. Alors essayez d'imaginer 1,4 million dans une ville de 250 000 habitants. Il y a du monde partout. Ils sont sur les trottoirs, ils ont réussi à se fabriquer des abris de tôle, de carton, de bois, de n'importe quoi. Ils vivent directement sur l'hôpital. Les évacuations, il pleuvait ces derniers temps, eh bien, les égouts ne sont prévus pour 250 000 et pas pour 1,4 million. De ce fait, il y a de la boue partout, il y a de l'eau partout, les poubelles, c'est pareil. La ville est très, très sale, elle est engorgée de détritus, etc. Il y a, bien évidemment, de la nourriture, mais c'est 2-3 fois le prix. C'est impossible. Les gens passent leur temps à faire la queue. La queue pour acheter du pain, la queue pour au niveau sanitaire quand il y a un centre médical qui peut les avoir, la queue pour avoir de l'eau. Tout est problématique pour cette population qui a été déplacée de force. En vérité, ce que l'on ressent, c'est une grande, grande, grande tristesse par rapport à cette population qui est complètement en train de se déshumaniser. Et ça, c'est vraiment choquant, si vous voulez, d'avoir amené 1 400 000 personnes dans une espèce de nasse, d'accord, et de ne pas leur donner les conditions d'une vie digne. Ces derniers jours, les bombardements, on avait le sentiment qu'ils se rapprochaient, en particulier la nuit. Une partie de l'hôpital a reçu aussi des éclats liés aux bombardements. Il y a une autre partie de l'hôpital dont les faux plafonds ont été soufflés par la puissance de l'explosion. Donc on a l'impression que les bombardements se rapprochent en tous les cas de l'hôpital européen. Il n'y a pas d'autre solution qu'un arrêt immédiat de la guerre. Il faut absolument protéger cette population. Il y a une situation de tension en même temps. Très rapidement, la moindre dispute devient une bagarre et la foule en même temps explose. Et je pense que si on continue à les maintenir dans cette situation où il n'y a pas suffisamment de nourriture, où il n'y a pas suffisamment d'eau, où leurs conditions d'hygiène sont épouvantables, etc., alors il peut y avoir une situation de tension. Vous avez le traumatisme au sens large. Alors le traumatisme, c'est les polyblessés, au sens où on a plusieurs lésions. Ils sont quelquefois brûlés aussi. Ils sont blastés, c'est-à-dire qu'ils subissent les conséquences de l'explosion elle-même, des phénomènes de pression. C'est la pathologie qui est propre à ces situations de guerre.
Et c'est des enfants, des adultes ?
Énormément d'enfants, et vous avez des enfants, énormément d'enfants qui arrivent, d'enfants qui sont amputés déjà. Il y a quelques jours à peine, un enfant de 3 ans a été amputé du bras droit et de ses deux jambes. En 20 ans que je vais de pays en crise à d'autres pays en crise, en guerre, jamais autant les enfants n'ont été autant touchés, ça c'est clair, par la densification de la population, parce que la population est très dense. En Syrie, les gens ont la possibilité, chaque fois qu'il y a une zone de violence, de pouvoir partir, s'éloigner, etc. La population se déplace. J'étais à Raqqa pendant les combats, la population fuit. À Mossoul, les populations fuient. Mais là, elle ne peut pas fuir. Elle est là.
On est d'accord, c'est une population civile.
C'est une population civile. Je n'ai pas vu un seul combattant du Hamas rentrer à l'hôpital pour se faire soigner. J'en ai pas vu.
Docteur Khaled Ben Boutrif, je suis urgentiste à Toulouse et j'ai été en mission à Gaza pour une aide médicale et humanitaire avec l'association Palmed.
C'était du 21 janvier au 5 février.
Voilà, du 22 et on est rentré le 23 et le retour c'était aujourd'hui. Que vous dire la situation ? Voilà, on ne peut pas prendre que la situation sanitaire, je pense que c'est un tout. Et la globalité de la situation est catastrophique sur le plan humain, sur le plan sécuritaire, sur le plan alimentaire, sur le plan sanitaire, sur le plan de l'hygiène. L'hôpital est le seul qui reste de toute la bande de Gaza. C'est l'hôpital européen, là où on a travaillé, où on a aidé nos confrères palestiniens sur place.
Actuellement à Rafah, il reste combien?
Il reste un vrai hôpital. Les autres, c'est des petites structures d'accueil ou de maternité. Mais
le seul hôpital, c'est l'hôpital européen.
Il reste un seul hôpital.
Sur 13 hôpitaux, il ne reste plus qu'un seul hôpital. L'hôpital européen.
C'est l'hôpital européen. Je pense que ça fait. Le système sanitaire est à 5% de ses capacités. Avec une population qui a tout descendu vers le sud, de réfugiés, de déplacés, qui ont tout perdu, qui sont malades, qui ont besoin de soins, qui ont besoin qu'on les fasse manger, qu'on les loge. Donc c'est une situation vraiment d'urgence, d'extrême urgence d'ailleurs.
Pendant tous ces 15 jours, vous étiez uniquement à Rafah ou vous avez pu voir
Khan Younes? Au sud de Khan Younes, à la limite de Rafah. Donc j'ai pu me déplacer entre Khan Younes et Rafah. On a vu que des civils aucun militaire, à aucun moment, ne s'est présenté. Essentiellement des enfants, des femmes, des blessés par explosion et des tirs de sniper. Donc c'est bien voulu, c'est ciblé.
Ciblé contre qui exactement ?
Contre des civils que j'ai vus, que j'ai soignés, qu'on a pris en charge, moi et mes collègues. Le sniper, je pense, a pour mission de terroriser en atteignant des cibles de loin. Et c'est ce qu'il arrive à faire, malheureusement. On avait pas mal de tirs ciblés, et c'est des snipers. Donc on a pas mal de balles au niveau de la tête. Sur des enfants, sur des femmes, sur tout le monde, sur des vieillards, sur tout le monde. La population civile est visée, les structures de santé sont visées, les médecins sont visés. Ils ont commencé par bombarder de façon directe les hôpitaux. On l'a vu dans le nord, il y avait 2 ou 3 hôpitaux qui ont été bombardés par des F-16, des avions de chasse. Et après, ils ont changé la méthode. Maintenant, ils prennent toujours un cercle autour de l'hôpital. Ils le bombardent sur les bords. Ils coupent les routes, ils coupent les vivres, ils coupent l'eau, ils coupent l'électricité. Donc, ils bombardent plus les hôpitaux de façon totale, mais ils coupent l'hôpital de la population. Ils coupent l'hôpital des soignants. Donc, certains se trouvent coincés pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois.
Quand vous disiez que les soignants étaient visés, ça...
Les soignants étaient visés, ils sont ou tués, ou emprisonnés et torturés. J'ai des témoignages et on a vu des cas de torture. A priori, ils visent tout. Ils procèdent par carré, comme pour nettoyer un carré, pour passer à un autre carré, de façon...
Méthodique,
tout à fait. Comme je vous ai dit, les soignants sont visés, les hôpitaux sont visés, et les centres de secours, tout ce qui donne de l'alimentation, ça, ils sont visés. Ça, je l'ai vu.
Nous-mêmes, on est entrés avec notre propre matériel qui a été contrôlé. On est resté quasiment 6 heures à la frontière. Tout passe sous rayon, etc. On a été contrôlé, ce qui est normal, bien sûr. Donc on a pu apporter ce que nous avions avec nous. Et on était focalisé sur le matériel médical. Donc on a emmené des compresses, du fil, ce qu'on nous avait demandé. Mais en fait, si c'était à refaire, je pense qu'au lieu d'emmener du matériel, puisque chaotique pour chaotique, là, soigner le physique va être très compliqué. Pour plusieurs années, là, c'est une génération d'handicapés. Donc là, si c'était à refaire, j'emmènerais plutôt des jouets, des bonbons et puis des chaussures. Voilà.
Qu'est-ce qui vous a plus marqué ?
Qu'est-ce qui m'a plus marqué ? Pour aller sur une note positive, ça serait leur dignité. Je ne m'y attendais pas du tout. Leur dignité, je m'attendais à un peuple renfrogné, accablé. C'est-à-dire que j'ai... Et en fait, il n'y a pas une seule personne qui travaille à l'hôpital qui ne soit pas en deuil. Donc il faut faire attention à ce que vous dites, il faut essayer d'absorber leurs émotions. Ils sont très dignes. Ils sont très dignes, donc leur priorité était de nous accueillir. Pour être un peu parlante, le kilo de tomates était à 50 centimes. Maintenant, il est entre 6 et 10 euros selon les jours. Ils n'ont pas d'argent. Donc c'est très compliqué. C'est très compliqué de se nourrir. Ils ont des lentilles, ils ont du riz. Il y a beaucoup de riz. Donc ils sont tous constipés à nos urgences pour ça. Donc aux urgences, il fallait qu'on gère les urgences immédiates de guerre et puis les urgences de la vie qui continuent. Et ce que j'ai vu est innommable. Innommable. Des enfants, des personnes âgées, des jeunes, des moins jeunes. Enfin, j'étais aux urgences et je n'ai pas eu une seule journée sans mort, évidemment, que vous en doutez. Des personnes qui arrivaient déjà mortes, des personnes qu'on a perdues. J'ai le souvenir de ce monsieur auquel on faisait un massage cardiaque et le brancard s'est cassé sous nos bras, donc il a fait une chute d'un mètre. Il était déjà en arrêt cardiaque, vous voulez qu'on fasse quoi ? On s'arrête, les brancards sont catastrophiques. Ils sont pleins de sang séché, évidemment. Ils n'ont même pas de désinfectant. Du désinfectant pour surface, ils n'en ont pas. Enfin, c'est compliqué. Samedi dernier, le bombardement était tellement proche que j'étais en réa et le plafond s'est effondré. D'ailleurs, il y a eu vraiment, ils ont des Algeco à côté et les Algeco se sont cassés sous le soufflement des bombardements. Donc on sent que ça se rapproche. Les drones qui sifflent 24 heures sur 24 à vous en donner des migraines sont plus ou moins proches. Donc on le sent, on sentait les derniers jours que les drones étaient plus proches, plus forts, plus bas. On l'a senti. Donc le fait que je sois là pendant les 15-16 jours et mes collègues, c'est valable pour chacun de mes collègues dans leur spécialité, ça a permis à au moins un soignant, voire deux, de pouvoir s'extraire un peu. Il y a une telle cohésion d'équipe que quand bien même ils sont de repos, ils viennent. Donc en fait, ils vivent à l'hôpital. Déjà parce que ça leur permet d'avoir un repas, puisque l'hôpital fournit un repas par jour aux soignants. Donc en fait, ils viennent et ils se partagent le repas qu'ils ont. Donc ça leur permet et de passer le temps, et de se sentir utile, et d'être là pour leurs collègues, et surtout d'avoir un repas.
Quand vous dites que les patients sont rafistolés, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret ?
Un exemple concret, des enfants qu'on suture. Alors les enfants qui arrivent avec des plaies, encore ce week-end, une plaie par balle au cou d'un enfant de 8 ans, il a reçu une plaie par balle au cou, une plaie dans l'abdomen, et il a le pied qui est complètement lacéré. Le pied lacéré, il faut l'emmener au bloc, il faut nettoyer, il faut faire des sutures profondes, ou avoir un chirurgien plastique. Tous les chirurgiens plastiques étaient occupés. Donc on a mis des compresses à l'intérieur du trou béant, et puis advienne que pourra. Les balles sont restées à l'intérieur tant qu'il n'y a pas d'hémorragie, tant qu'on n'est pas dans l'urgence catastrophique proche de la mort, il n'a pas sa place au bloc. Donc les balles sont restées, puis on a dit à son père, on vous garde cette nuit, puis vous revenez si quelque chose ne va pas. Donc il est parti avec sa balle dans le cou, qui est tout proche des cervicales, et une balle dans l'abdomen. Il a 8 ans. Donc ils sont rafistolés, ces patients. Ils vont revenir. Ils sont tous infectés, ils n'ont pas de matériel. Donc ils ne font pas de pansement. Il y a des patients qui n'ont pas de pansement pendant 3, 4, 5, jusqu'à 10 jours, sans que quelqu'un ait ouvert leur pansement pour une réflexion. C'est vraiment une catastrophe. Il leur faut du matériel, il faut ne serait-ce que les urgences. Cet hôpital, il faudrait le fermer. Sanitairement, c'est au-delà de l'entendable et de l'imaginable. Il faudrait fermer cet hôpital. Cet hôpital devrait être fermé, évacué, nettoyé de fond en comble. Il y a du sang jusqu'au plafond. Il y a du sang sur les rideaux, sur les murs, sur le matériel. C'est impossible. C'est impossible à nettoyer sans une désinfection profonde. C'est catastrophique. Iman Marifi. Infirmière urgente, urgence et réanimation. من عند الاول اللي لعب مع الورق على بيت الفرق والصبي اللي فيي نسي كل شي ومعبي كلمة نطق بعدني متذكر قديش مرقت من هون يا الله حواجز جيش وبطون والشارع صار مرسوم اتنين ملوين بعدني مكفي ما بيت صار من الناحية التانية ورا الحدايد وسلوك والاطحاط ورا عجة الناس والسيارات والموتسيكلات ملوين بعدني مكفي كل الحارات صايرة شبه بعضها مش على بعضها بس مضطرة تكون مع بعضها شو عليه محل المطعم صار فيه مطعمين محل التليفونات صار في منه نوعين وصورة الزعيم اللي كانت صغيري صارت أكبر مرتين بوم ها تعرف حتى أمي بتحكي لي منيح فليت فسحة الضوء اللي جاي على غرفتك مدوا عليها الشرطان كأني رجعت فجأة 4 سنين أتحسس الباسبور وشيك على الأخدام يمين شمال يمين كلهم حكولي هالمرة غير بس مش عارفين الوجع بالراس مش بين الإيدين وال روح
jour dans l'actualité des luttes, jusqu'à 13h30 sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Et on continue donc cette émission autour de la lutte du peuple palestinien en vous diffusant maintenant un interview, entretien réalisé avec un membre du collectif Samidoun, jeudi 8 février 2024 dernier.
Il y a deux choses qu'il faut prendre en considération en fait quand on parle de tout ce qui s'est passé là autour de la Cour internationale de justice. La première, c'est la plainte qui a été déposée par l'Afrique du Sud. Et la deuxième, c'est du coup l'issue en fait qui a été donnée par la Cour internationale de justice. Pour le premier point, en fait, ce que dit la résistance et ce que dit en fait la majorité du peuple palestinien, c'est que la démarche de l'Afrique du Sud sur cette Cour internationale de justice-là, c'est quelque chose d'ultra bénéfique, parce qu'en fait, ça pointe du doigt l'État colonial sur la scène internationale, ça l'isole de plus en plus, et ça vient en fait imposer à l'ordre du jour de la communauté internationale le mot « génocide ». Et donc c'est un acte de solidarité genre hyper concrète qui a été fait par l'Afrique du Sud, qui en plus a une histoire de lutte contre l'apartheid, de lutte contre le racisme, etc. Et toutes les factions de la résistance, tous les groupes de la résistance, quel que soit en fait leur positionnement sur l'échiquier politique, ils ont salué cette démarche-là et ils ont remercié en fait l'Afrique du Sud en rappelant que finalement la lutte de libération nationale, elle se passe sur tous les terrains possibles et en fait il faut la porter partout où on peut la porter. C'est-à-dire il faut la porter sur le terrain en Palestine historique. De manière militaire, il faut la porter de manière culturelle, en faisant de l'associatif, etc., de manière médiatique aussi, mais il faut la porter devant les instances internationales, comme ça a été le cas systématiquement dans les luttes de libération nationale, quand on pense à Amilcar Cabral, quand on pense au FLN, etc. En fait, il y a constamment cette dialectique entre ce qui se passe sur le terrain, la résistance de manière très concrète sur le terrain, et ensuite les soutiens et la solidarité internationale. Maintenant, qu'est-ce que ça montre, en fait, la décision de la Cour internationale de justice ? Ça montre que, finalement, compter sur le droit international, ça ne suffit pas. Pourquoi ? Parce que le droit international, à l'heure actuelle, il n'est pas pensé pour répondre aux exigences des peuples opprimés, et il n'est pas pensé, en fait, pour rentrer en contradiction avec les puissances impérialistes et pour rentrer en contradiction avec des puissances coloniales comme l'État colonial israélien. Et à l'heure en fait, où il y a plus de 26 000 morts, certains évoquent le chiffre de plus de 30 000 morts, où il y a des incarcérations de masse, où il y a des déplacements de population, où il y a un risque de famine hyper élevé sur la bande de Gaza. Donc il y a tous les signes en fait qui laissent entendre qu'il y a un génocide qui est en cours sur la bande de Gaza par l'armée coloniale, qu'il y a une volonté, et ça en fait cette volonté-là elle court depuis 75 ans d'effacement de la carte du peuple palestinien, d'expulsion de ce territoire, d'invisibilisation en fait du peuple palestinien et de son existence. Malgré toutes ces preuves-là, le droit international, la Cour internationale de justice refuse d'admettre qu'il y a un génocide en cours et en fait se contente de demander à l'armée occupante, à l'armée de colonisation, de mettre toutes les précautions en œuvre pour éviter qu'il y ait un génocide. Mais sur le terrain, en ce moment, il y a des hôpitaux qui sont ciblés. Sur le terrain, en ce moment, il y a des enfants, des adultes, des hommes, des femmes qui se font amputer sans anesthésie. Il y a des écoles qui sont ciblées par des écoles où les gens trouvent refuge, qui sont ciblées de manière systématique et de manière délibérée par l'armée coloniale. Il y a des exécutions sommaires de captifs, de prisonniers palestiniens qui ont lieu. Donc il y a une opération génocidaire qui est en cours à Gaza, mais le droit international, parce que il n'est pas dans une phase où il pourrait remettre en cause les puissances impérialistes, et met un délibéré qui est en demi-teinte. Et donc du coup, nous, Samidoun, qu'est-ce que ça nous fait dire en fait sur cette décision-là ? C'est que finalement, il faut jamais oublier que c'est la résistance des peuples qui leur offrira la libération. Et que finalement, comme je crois que c'était Thomas Sankara qui disait ça, il n'y a que la lutte qui libère. Lui disait « seule la lutte libère ». Ça veut dire que nous, on ne peut pas se bercer d'illusions et penser qu'en fait la solution à la colonisation israélienne de la terre palestinienne donc de toute la Palestine historique, elle réside dans les clés de la communauté internationale et du droit international. Parce que c'est le droit international en lui-même qui a entériné le fait que il y a un État colonial qui s'installe en 1948 sur la Palestine historique, avec tout ce que ça suit, donc c'est-à-dire la Nakba, le déplacement de 800 000 Palestiniens et Palestiniennes de leurs terres, la destruction de plus de 530 villages, etc. Et donc, il faut qu'on analyse ce recours au droit international comme un support et une béquille à la résistance qui est menée par le peuple palestinien depuis 75 ans. Il n'y a que cette résistance-là, portée par les masses palestiniennes, en fait, qui va pouvoir arracher la libération nationale. Et donc, il y avait une citation de Amilcar Cabral qu'on aime bien citer, nous, sur le droit international, qui disait ça. Qui disait, donc, Amilcar Cabral, leader indépendantiste de Guinée-Bissau Cap-Vert, voilà, chef historique du PAIGC, qui a porté la lutte de libération nationale dans ces territoires-là, face au colonialisme portugais. Et donc, lui disait, finalement, la lutte de libération nationale Guinée-Bissau Cap-Vert, en fait, c'est une lutte pour le droit à la vie. Et comme tous les peuples du monde entier, les Guinéens, les Cap-Verdiens, ils ont ce droit à la vie-là, et ce droit à la vie-là, il est inscrit dans la Charte des Nations Unies. Et donc la Charte des Nations Unies, elle sert de base pour légitimer la résistance des peuples qui luttent contre le colonialisme. Maintenant, si la Charte des Nations Unies ne suffit pas pour arracher la victoire, si les Nations Unies elles-mêmes ne suffisent pas, les peuples sont suffisants par les sacrifices qu'ils consentent chaque jour dans la lutte de libération nationale à arracher la victoire et à arracher la libération face au colonialisme. Et donc là, il s'agissait du colonialisme portugais. C'est-à-dire que c'est pas une puissance étrangère ou c'est pas une force extérieure qui va libérer les peuples, mais c'est les peuples qui se libèrent eux-mêmes. Et c'est pour ça, en fait, que nous, notre rôle ici, ça doit être de soutenir la résistance palestinienne. Pourquoi ? Parce que la résistance palestinienne, elle est encore plus que jamais unie. Tous les partis politiques, toutes les factions sont parties prenantes en fait dans le conflit qui les oppose au colonialisme. Et donc du coup, nous, c'est important d'avoir cette chose-là en tête, et que la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est de pas compter sur le droit international, mais de mettre en place une vraie solidarité internationaliste en soutien à la résistance du peuple palestinien et pour diffuser sa parole le plus largement possible et de contrer le récit colonial, du coup.
Hier, il y avait une réunion du collectif Urgence Palestine du 20e, de sorte à pouvoir construire, continuer à construire la mobilisation sur le territoire français. Et par rapport à ça, je voulais comme ça te demander, selon toi, selon vous, où est-ce qu'on en est un peu de cette mobilisation et quels sont les enjeux qui vont nous occuper ces prochains temps afin de réussir notamment à soutenir la lutte palestinienne.
Alors du coup, ce qu'on observe au niveau de la mobilisation, c'est que en fait, on était sur des modes de mobilisation qui étaient assez classiques là, ces 4 derniers mois, qui c'était des mobilisations de rue, des manifestations, des rassemblements qui avaient une fréquence un peu hebdomadaire. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un essoufflement de cette mobilisation, mais pour plein de raisons différentes. Déjà parce que c'est ultra dur de faire descendre des gens dans la rue 4 mois d'affilée et en fait de les maintenir dans un état de mobilisation constant, etc. Alors que finalement, eh ben, on est face aussi à un constat d'impuissance qui est que ben, nos ennemis en face, que ce soit les alliés impérialistes de l'État colonial ou l'État colonial en lui-même, continuent le génocide contre la population palestinienne. Et en fait, que jour après jour, on est confronté aux mêmes images de massacres, on est confronté aux mêmes images de morts, d'incarcération massive, etc. Et donc ça peut aussi décourager et démobiliser énormément de personnes. Maintenant, il y a aussi un autre truc à prendre en compte pour analyser bien les raisons en fait de la démobilisation, c'est le rôle qu'a eu le gouvernement français dans sa gestion en fait des mobilisations de rue pro-palestiniennes et comment ça a pu aussi affaiblir le mouvement dès le départ. C'est-à-dire que le gouvernement français, c'est un des alliés les plus tenaces et les plus fidèles à l'État colonial. Ça s'explique de plein de manières dont on va pas développer là maintenant, mais en fait, comment il a géré le truc, c'est que dès le départ, il y a eu une répression très forte du mouvement pro-pal, donc il y a eu des interdictions de manifestations. Donc à chaque fois qu'on allait dans la rue pour des rassemblements ou pour les manifestations dans les premières semaines, après début octobre, et ben en fait il y avait des risques d'amende, il y avait des risques d'interpellation, etc. Et donc en fait ça a découragé énormément de monde et ça les a empêchés, en fait ça a empêché le mouvement de prendre de l'ampleur, parce qu'il y a des gens pendant très longtemps, jusqu'à décembre, janvier, ils se demandaient si les mobilisations pro-palestiniennes étaient autorisées. Et donc du coup, le gouvernement, mais pas que sur la question pro-palestinienne, comme sa gestion des différents mouvements sociaux ces dernières années le montre, c'est qu'il joue constamment la montre et le rapport de force. Cette répression-là, donc les menaces de dissolution, les menaces d'article 40, c'est des militants qui, et des militantes qui ont été interpellés, emmenés en garde à vue pour plusieurs, jusqu'à 48 heures. Il y a des enquêtes qui ont été menées sur des partis politiques comme le NPA, etc., des condamnations sur la place médiatique et tout ça, ça a joué dans l'affaiblissement sur du long terme des mobilisations de rue. Donc du coup, Urgence Palestine, là, a décidé de s'orienter vers différents types de mobilisations. Donc plus, comme ça a été le cas à Gennevilliers, il me semble, il y a 2-3 semaines, donc un énorme meeting où il y avait plus de 1500 personnes, la salle était remplie à ras-bord. En fait, c'est plus de construire en fait sur du long terme et de se dire, ok, dans la rue, il y a un essoufflement, donc comment en fait on consolide notre assise populaire, comment est-ce que en fait on fait naître à droite, à gauche, dans tous les quartiers populaires, dans toutes les villes, des petits comités locaux ou des grands comités locaux Urgence Palestine, comment est-ce qu'on organise le tissu local, comment on donne aux gens des organes dans lesquels ils peuvent militer pour la Palestine de manière conséquente avec une ligne qui est la solidarité avec le peuple palestinien et sa résistance, et pas juste une ligne type humanitaire, etc. Et donc finalement, le meeting qui s'est déroulé hier soir, ça répond à ces besoins-là. Donc c'est voilà, comment affirmer un discours politique, comment construire les bases en fait d'un mouvement qui va se consolider d'année en année. Et donc voilà où on en est.
Alors justement, nous on a déjà pu faire des interviews ensemble, et puis on a fait plusieurs interviews aussi avec d'autres collectifs, notamment le collectif Palestine Vaincra, qui met sans cesse en avant le fait que militer pour la libération de la Palestine, c'est en fait militer contre l'impérialisme et contre toutes les formes de colonisation. Est-ce que c'est pas aussi un des enjeux actuellement que de faire en sorte que, au-delà du scandale, de l'horreur, du génocide qui se déroule, on nourrisse aussi les arguments des différentes personnes qui pourraient être intéressées ou interpellées par la question palestinienne, d'une réflexion politique anticoloniale et anti-impérialiste, de sorte notamment à reconstruire une mobilisation internationaliste aussi sur le territoire comme une occasion sur le long terme et pour évidemment ce qui concerne la Palestine, mais qui pourra aussi potentiellement ensuite soutenir d'autres mouvements de libération.
Ouais, alors ça c'est grave intéressant, parce que du coup ça soulève la question de finalement comment en fait sortir de la vision court-termiste et comment en fait installer les bases pour que y ait une voie de solidarité avec la lutte du peuple palestinien et sa résistance qui soit cohérente avec ce qui se passe sur place et qui soit conséquente. Et donc du coup, en effet, en développant des meetings, en développant des espaces un peu d'échange théorique ou des espaces d'échange politique, on arrive à sortir de cette vision un peu très court-termiste, très urgentiste, qui est de répondre activement et de manière concrète au génocide en cours, mais en fait d'aller un peu plus loin et de dire, mais si le génocide s'arrête demain, en fait, comment est-ce que nous, on agit en solidarité avec la résistance du peuple palestinien? Comment est-ce qu'on comprend la résistance du peuple palestinien? Qu'est-ce que ça nécessite, en fait, nous, dans notre manière, en fait, de porter la lutte dans les centres impérialistes, etc. Et donc, en fait, c'est une question archi intéressante. C'est que ces espaces-là, qui diffèrent, en fait, un peu des mobilisations de rue, où on est dans l'action, etc., mais qui nous permettent, en fait, d'asseoir les bases politiques d'une analyse cohérente avec la situation sur place et qu'on recentre en fait le curseur sur la ligne palestinienne telle qu'elle s'exprime là-bas, et ben en fait c'est ultra important. Nous, il y a un révolutionnaire palestinien qu'on aime, enfin qu'on apprécie beaucoup, dont on apprécie beaucoup la ligne politique voilà, qu'il portait, c'est George Habash, qui est un grand révolutionnaire de la gauche palestinienne, etc., et qui est une figure vraiment emblématique de la résistance palestinienne, qui lui disait cette chose-là. Il disait: la résistance palestinienne, le peuple palestinien, ne lutte pas et n'est pas confronté uniquement à la colonisation de peuplement sioniste, mais elle est confrontée à la colonisation sioniste aidée par les puissances impérialistes. C'est-à-dire que il y a un double combat, c'est-à-dire que la résistance palestinienne combat le colonialisme et l'impérialisme, parce que ce qui se passe à Gaza, là, c'est une illustration très claire de cette idée-là. Avec quelle bombe l'État colonial, en fait, commet son génocide à Gaza? C'est pas des bombes qui sont seulement fabriquées sur les territoires volés, en fait, dans la Palestine historique en 48. Non, c'est des bombes qui lui sont livrées par des puissances impérialistes comme les États-Unis, comme la Grande-Bretagne. Et donc, en fait, l'État colonial bénéficie d'alliés très fidèles qui lui fournissent un appui logistique, un appui militaire, économique et politique, comme c'est le cas en Allemagne et en France. Et donc, du coup, nous, ici, notre mission en tant que internationaliste, en tant que soutien du peuple palestinien et de sa résistance, c'est pas uniquement d'être dans une démarche humanitaire et victimaire. Évidemment que c'est horrible ce qui se passe sur place, mais nous, en fait, on doit actionner un autre levier, qui est de lutter contre l'impérialisme de notre propre État, et de lutter, en fait, contre le soutien que les centres impérialistes, que les États occidentaux fournissent à l'État colonial. Et donc, en activant ce levier-là, on rentre dans une solidarité concrète avec, la résistance palestinienne. Pourquoi ? Parce que, comme disait Kanafani, partout, en fait, où on affaiblit l'impérialisme, partout, en fait, où on rentre en conflit avec lui, partout où on le combat, et ben, en fait, ça sert la révolution mondiale. Et en fait, on désengorge, on fournit de l'air, en fait, on ouvre des fenêtres aux peuples qui luttent pour leur libération. Et donc, on ouvre une deuxième fenêtre de réflexion, là, c'est comment est-ce qu'on peut départiculariser la question palestinienne. Parce qu'en fait, ça, c'est une volonté de l'État colonial et de ses alliés occidentaux de vouloir particulariser la question palestinienne comme si c'était quelque chose de très compliqué à comprendre, que en fait c'était une question très localisée, que en fait il fallait avoir je sais pas moi un doctorat soit en sciences sociales ou en sciences humaines pour comprendre ce qui se passait là-bas. Non, en fait, nous, on doit sortir de cette grille-là et juste se souvenir que ce qui se passe en Palestine, en fait, c'est une lutte de libération nationale, comme ça a été le cas en Algérie, en Guinée-Bissau, au Cap-Vert, en Angola, au Mozambique, partout dans les territoires colonisés, au Cameroun aussi, au Kenya avec les Mau-Mau, et à Madagascar. Se saisir, en fait, de l'histoire de nos familles, se saisir de l'histoire, en fait, de nos parents, de nos connaissances, que ce soit nos amis, etc., et en fait, pour rattacher la résistance palestinienne à nos exemples historiques et lui fournir, voilà, un cadre commun et un cadre historique. Et c'est aussi la lier aux luttes qu'il y a en cours pour la libération partout sur la planète. Et nous, en France, on a des exemples de ces luttes-là. Par exemple, il y a la Kanaky qui est une colonisation de peuplement. L'État français a bafoué les accords qu'il avait signé avec les indépendantistes. Donc du coup, nous, on a du travail à faire en solidarité avec le peuple kanak, avec ce qui se passe en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane. Et donc, en fait, il faut lier la question palestinienne aux luttes de libération de tous ces territoires-là colonisés par l'État français. Et en renforçant la lutte palestinienne de manière politique, en activant notre solidarité politique, ça va nourrir les luttes anti-impérialistes et anti-colonialistes des territoires colonisés par la France. On le voit, hein, les Kanaks qui se sentent très très liés à la question palestinienne, et vice versa, en nourrissant, en fait, et en militant pour la libération des peuples qui sont, en fait, sous l'emprise colonialiste de la France. En fait, ça va venir en aide à la résistance palestinienne, parce que ça l'inscrit dans une dynamique mondiale, dans une dynamique de libération commune.
On vous laisse maintenant donc écouter les prises de parole réalisées lors de la réunion du collectif Urgence Palestine Paris 20e du mercredi 7 février 2024.
Bonsoir à tous, merci d'être venus. Je me présente, je m'appelle Dima, je suis palestinienne, j'habite en France depuis quelques années. Avant ça, j'étais chez moi en Palestine, principalement. Je suis née à Jérusalem et j'ai grandi à Ramallah, en Palestine. Je viens, juste pour la petite introduction personnelle, d'une famille qui est réfugiée de 1948, donc c'est l'année de Nakba. Mes grands-parents, ils ont tous les deux vécu le Nakba et ils étaient déplacés dans leur propre pays. Ils sont devenus réfugiés dans leur propre pays en année 48 parce que leur village natal a été en fait confisqué et les soldats sionistes ont commis des massacres dans ce village qui a touché aussi même des membres de ma famille, spécialement côté grand-mère. Et donc, il s'est déplacé vers Jéricho, dans des camps de réfugiés de Honoroy. Et je vous raconte cette anecdote parce que je me suis dit, j'aimerais bien partager un truc personnel. Et je voulais que ce soit autour de cette organisation que je admire beaucoup personnellement. Pour ceux qui ne connaissent pas Honoroy, c'est l'Office des secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine. Et depuis peu d'années aussi de Proche-Orient, parce qu'ils fournissent aussi des services pour plein de réfugiés syriens. Toutes mes oncles, mes tatas et mon père, en fait, ont reçu leur éducation dans des écoles de Norway. Et le contexte actuel, c'est que cette organisation, elle est en train de vivre une pression assez immense. C'est dommage parce que c'est une des peu acteurs qui s'est présente depuis le début, donc début de ces 76 ans de colonisation et d'occupation et d'apartheid qu'on est en train de vivre. Et aujourd'hui, en préparant le peu moment que je voulais partager avec vous, j'ai regardé la date et je me suis rendu compte que aujourd'hui, c'est le 7 février. Ça marque 4 mois. Aujourd'hui, c'est 4 mois de génocide qui se passe à Gaza. C'est fou. Ça fait un tiers d'une année, en fait, qui... On est en train de vivre ça, pas nous, mais aussi les gens à Gaza, mon peuple qui est à Gaza, qui vit ça depuis 4 mois maintenant. On a 2 millions de personnes qui sont déplacées par force. C'est immense en fait, 2 millions de personnes, ça fait comme si la population de Paris entière était dans la rue. Et c'est pour ça qu'on est aussi aujourd'hui ici. Il y a plein de membres divers, des différents collectifs, des différentes organisations, parce que nos combats en fait se croisent en France et à l'international aussi, en Palestine et ailleurs. Et tous ces combats, il faut se rappeler, je pense, que ça vient vraiment, c'est ancré dans des problèmes sociétaux qu'il y en a et de problèmes liés à la racisme vraiment profond. Et ça m'amène à la deuxième partie de ce que je voulais vous partager sur Urgence Palestine en particulier. Je fais partie de Urgence Palestine, qui est un collectif qui a été créé en octobre, qui rassemble des citoyens comme moi, des organisations, des mouvements associatifs, syndicaux, politiques, qui s'est mobilisé pour la Palestine, qui s'est mobilisé particulièrement pour l'autodétermination du peuple palestinien. Je voulais vous partager les principes spécifiques à l'urgence palestine parce que je pense que c'est important de vous partager ces principes qui nous réunissent tous au sein de l'urgence palestine. Le premier, c'est stop au génocide, cessez le feu et fin de blocus immédiat au Gaza. La deuxième, c'est deuxième principe, c'est pour la fin de la colonisation, de l'occupation et de l'apartheid. Le troisième, c'est le boycott, désinvestissement et sanctions contre Israël. Le quatrième, c'est le soutien à la résistance du peuple palestinien. Cinquième, c'est contre la complicité du gouvernement français avec les crimes israéliens et la répression de la solidarité avec la lutte du peuple palestinien. Ce qui m'a vraiment, je pense, attirée à l'urgence palestine depuis que j'ai connu la collectif, c'est la notion de la décentralisation de gouvernance qui est horizontal et très participatif. En fait, au sein de chaque collectif d'urgence palestine, c'est très important de discuter et d'ouvrir la parole à tous les gens présents. En fait, tout le monde peut créer un collectif d'urgence palestine. L'idée de ces collectifs qui se forment en France et à Paris, dans la région parisienne, c'est vraiment de cibler des actions qui sont locales et populaires. Donc, actuellement, je crois qu'il y a plus de 20 collectifs différents en France. Donc, si ça vous intéresse, rejoignez-nous. Bon. Je vais juste terminer peut-être avec les prochains grands événements. Donc, un appel si vous êtes libre. Ce vendredi, il y a une rencontre intercollectif à Montreuil organisée par la comité Solidarité Montreuil-Palestine. Ça prendra lieu à 19h dans le quartier de Bel Air. Et samedi, pas samedi prochain, c'est l'année d'après, donc c'est le 17 février, c'est la journée nationale de boycott de Carrefour. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas boycotter Carrefour le reste de l'année, il faut continuer, mais c'est vraiment pour cibler Carrefour. Donc, côté Urgence Palestine 20e, on va organiser une déambulation et des tractages qui prendront lieu devant les Carrefour. Donc, si vous êtes libre, rejoignez-nous. Et veiller d'autres aussi événements à Paris qu'on va publier aussi sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup.
Donc je vais passer la parole à Souheil, je vais le laisser se présenter. Donc il est étudiant palestinien ici à Paris. Et juste pour préciser, durant cette soirée, donc tu en as parlé Dima, on voulait aussi faire un lien entre ce qui se passe en Palestine et le continuum du racisme qui se passe en France. Et donc on va aussi parler de la loi Darmanin, j'ai oublié de le dire, donc Myriam parlera sur nos luttes en fait, contre toutes les politiques migratoires de la France parce qu'elles sont toutes pourries. Voilà, à toi Souheil.
Bonsoir, je me présente, je m'appelle Souheil Taha, je suis un étudiant palestinien ici à Paris. Je suis en France depuis 2 ans. Et je vais faire cette intervention en français, même si mon français est vraiment catastrophique, mais j'espère que je serai compris. Maintenant, aujourd'hui, c'est le 7 février. On voit très clairement que après 4 mois, les Palestiniens sont exactement comme après 100 ans. Ils sont encore opprimés et massacrés à Gaza, à Cisjordanie, à le territoire 48 et à Jérusalem. Mais pas seulement les Palestiniens, aussi les pro-Palestiniens, ils sont opprimés. Et pas seulement les pro-Palestiniens, mais aussi tout ce qu'ils sont lutte pour l'égalité et la liberté et la justice partout dans le monde. Je pense que le contexte historique est très important pour comprendre. On ne peut jamais comprendre exactement ce qu'il se passe maintenant en Palestine sans bien comprendre le contexte historique. Et parce que le Nakba, pour les Palestiniens, le Nakba, elle n'a pas a lieu avant 75 ans. Elle a lieu aussi avant un an, avant la dernière semaine, hier. Et tout ce qu'il passe maintenant à Gaza, ce génocide, il est la cause directe et le résultat direct de la silence. Et le fait que tous les réfugiés, tous les Palestiniens, ils étaient déprivés d'être récompensés de ce qu'il a passé en 1948. Mais aussi avant le 7 octobre, le janvier 2023, l'armée israélienne a entré dans la camp de réfugiés à Jenin. Et elle a tué 8 Palestiniens dans un seul jour. le génocide, il a commencé depuis 100 ans. Et avant le 7 octobre, les Palestiniens ils étaient massacrés chaque jour. Et il y a 250 Palestiniens qui étaient tués seulement à Cisjordanie en 2023. Ils étaient tués quand ils marchent dans la rue, quand ils résistent, quand ils sont dans son chemin à l'école. Tous ces Palestiniens qui étaient tués, il n'y avait pas un tribunal pour suivre cette crime. Entre 1920 et 1948, la Palestine était sous le colonialisme britannique. Il y a la révolution grande de la palestinienne qui a commencé en 1936 et la révolution de Al-Burak en 1929. Mais aussi les Palestiniens, depuis le premier jour de cette colonisation britannique en 1920 presque, ils étaient en état de résistance. Et ça venait dans une manière naturelle. Tous les massacres que les Palestiniens ont vécu en 1936, seulement les Anglais ils ont tué plus de 1000 Palestiniens dans une seule année. Je dis ça pour montrer que tout ce qu'il a passé en Palestine dans un seul jour était assez, suffisait pour avoir toutes ces mobilisations qu'on a aujourd'hui autour de la monde. Pour les Palestiniens en Palestine, en Cisjordanie, à Gaza, à Jérusalem, les Palestiniens de 48, l'occupation et le colonialisme qu'il impacte pas seulement leur circulation et leur travail, et leur vie, mais il impacte aussi leur conversation dans les cercles des amis ou parmi les membres de famille. Pour tous les Palestiniens, elle bien comprend que le génocide et a lieu parce qu'il n'y avait pas de réaction sur tout ce qu'il a passé avant. Un Palestinien qui est vivant aujourd'hui et un Palestinien qui est vivant par hasard, par coïncidence. L'armée israélienne, il tuait les Palestiniens. Aujourd'hui, comme les Palestiniens étaient tués en 1920 et comme ils étaient tués en 1948 et comme ils étaient tués en 1992, et chaque jour dans les dernières 100 ans, les Palestiniens ils sont tués, pas parce qu'ils résistent seulement, pas parce qu'ils sont, ils soutiennent la corde d'Oslo, ou ils ont contre l'accord d'Oslo, pas parce que ils sont de gauche ou de Hamas ou de Fatah, pas parce qu'ils ont des hommes ou des enfants ou des femmes. Ils sont tués pour la seule, simplement parce qu'ils sont Palestiniens, qu'ils sont vivants. Tout ce qu'il passe maintenant nous a fait apprendre plus sur la Palestine, sur qu'est-ce que la Palestine, comment la Palestine vit chaque jour, et l'histoire de la Palestine, mais aussi qu'est-ce qu'il passe maintenant à Gaza, en Palestine, a réveillé beaucoup de cas d'injustice et d'oppression dans le monde. Par exemple, sur le réseau social, on trouve qu'on apprend plus sur la lutte des zapatistes, sur la lutte des sans-papiers, sur l'histoire même des génocides, comme le génocide de Rwanda, l'apartheid en sud d'Afrique. Et ça veut dire que toutes ces luttes, c'est naturellement, elles sont attachées. Pour moi, à mon avis, je pense que cette loi, qui s'appelle loi Darmanin, je pense que, pour moi, à mon avis personnel, je pense que c'est un produit naturel de ce régime politique français. Parce que quand on voit qu'est-ce que la France fait à Mayotte et toute l'exploitation économique là-bas, et statistiquement, et aussi au Sénégal, et au Togo, au Bénin, au Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, à tous ces pays africains, on sait bien que la France, ce régime politique français, elle ne va jamais donner une position juste pour les Palestiniens lorsqu'il continuera à coloniser ces pays africains et Mayotte. Je vais donner un exemple que je pense que c'est très intéressant et qui dit beaucoup. Depuis plusieurs années, 120 tribus indigènes qu'est-ce qu'on appelle Canada, cette tribu, ils commençaient une pétition pour demander le monde pour boycotter des banques et des sociétés qu'ils sont partis dans un projet d'investissement qu'ils violent ces droits, ces droits sur leur terre et tout ça. Il y a trois compagnies et banques principalement sont un grand investisseur dans ce projet. Et elles sont BNP Paribas, AXA Insurance. Il y a aussi la banque agricole, la Société Générale et des autres banques et compagnies en Suisse et Allemagne et Bruxelles. En même temps, le BDS, elle nous demande de boycotter aussi cette compagnie qu'il investit et qu'il a des coopérations économiques avec les colons israéliens. Pas seulement à Cisjordanie, mais aussi à Golan Heights, les territoires occupés syriens. Oui, merci. Ça veut dire une autre chose aussi, que cet colonialisme, on peut dire que c'est un colonialisme multi-européen. Donc, je pense, pour moi, je trouve qu'on voit toutes les formes de coopération militaire et économique et culturelle française avec Israël, que c'est un colonialisme français avant que l'ait un colonialisme israélien. Je vais conclure par parler avec notre application aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment. Après 4 mois, on voit que la mobilisation pour soutenir la Palestine, elle n'est pas comme le début. Et je pense qu'il faut, dans ce moment, faire un revue essentiel de les formes de solidarité qu'on a toujours fait ici en France vers la Palestine. Comment continuer notre solidarité, une solidarité efficace, une solidarité, comment on reconstruire aussi notre système de solidarité contre ce système qui continuait de diviser notre solidarité elle divise aussi notre collectivité. Elle nous divise au niveau sociopolitique, économique. Le boycott de Carrefour, le boycott de tous les business qu'ils ont en coopération avec Israël, c'est pas un choix, c'est une obligation. Pour moi, pas parce que je suis palestinien, pas parce que je suis pro-palestinien, parce que je suis humain, je sais bien que quand j'achète de Carrefour, je soutiens la machine militaire qui tue les Palestiniens chaque jour. Pour finir, je dis que la bataille en France, c'est une bataille très importante. Et la France a un historique intégral dans ce colonialisme. Et il y a une obligation de libérer et d'émanciper et de nous émanciper de cet engagement qu'il est imposé à nous par le régime politique français. Libérer, on voit très bien comment c'est la répression dans l'université. Jusqu'à maintenant, les médias français ne parlent pas assez de la Palestine. Jamais, oui, naturellement. La libération de la média, la libération de l'université, la libération de la politique, ça vient quand on libère la France entière.
Et pour terminer cette émission et faire les liens comme il se doit, à travers notamment nos mobilisations dans la rue, nous vous diffusons donc l'intervention qui avait été réalisée le 3 février dernier par les collectifs Urgence Palestine lors de la mobilisation pour l'abrogation de la loi Asile et Immigration.
Mes frères et sœurs, chers amis, aujourd'hui c'est un jour important. Pour nous, Urgence Palestine, on est dans la rue depuis des semaines, 120 jours, contre ce génocide qui est commis par Israël. Certains pourraient nous poser la question, qu'est-ce qu'on fait ici aujourd'hui dans cette marche de solidarité contre la loi Darmanin, contre ces lois racistes? La réponse, elle est simple. La lutte du peuple palestinien, c'est une lutte contre le racisme, contre le colonialisme et contre l'impérialisme. Et donc c'est naturel qu'on soit ici, ensemble, mobilisés, originaires du monde arabe, d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie. On sait c'est quoi la colonisation. Et on sait que si on est là, c'est pas par hasard. Si on est là, c'est parce que la France impérialiste a colonisé et détruit nos pays. La France impérialiste, colonisatrice, s'est alliée à Israël. Et aujourd'hui, ils portent un même et seul projet. Ce projet, c'est de continuer l'accaparement de notre terre, l'accaparement de nos richesses. Et c'est eux qui créent la misère, qui nous jettent sur les routes de l'exil. Et aujourd'hui, cette France alliée à Israël, cette Europe qui est devenue une forteresse, qui détruit nos vies et qui détruit nos peuples, nous sommes là pour la changer. Nous sommes là pour la changer parce que notre histoire, nos valeurs, nos cultures, c'est des valeurs de justice, de solidarité et de lutte. Et ce souffle qui nous vient de Palestine, mais aussi du Sahel et de partout à travers le monde, c'est un grand mouvement mondial aujourd'hui de lutte contre ce colonialisme, pour un autre monde, pour une autre France, pour une autre Europe et pour la solidarité sans frontières entre les travailleuses et les travailleurs, parce qu'il y a une seule humanité et on y appartient et on est ensemble jusqu'à la libération et jusqu'à la victoire.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitédesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement.